Eh bien, mesdames et messieurs, cher public, dans le cours de l'an passé déjà, on avait pu apprécier l'importance de la contribution des inscriptions de Delphes à la connaissance de l'histoire athénienne. À cet égard, le second siècle avant Jésus-Christ est la période pour laquelle l'épigraphie delphique est la plus riche en informations. Au siècle précédent, en effet, les Étoliens, qui occupaient le devant de la scène en Grèce centrale et dans le sanctuaire pythique en particulier, ne laissaient pas beaucoup de place aux autres peuples de l'Amphictyonie. Les choses changèrent assez radicalement dès 191, puisque, surtout après la défaite définitive de l'Étolie face aux Romains, en 189, s'ouvre une ère nouvelle, on peut le dire. On l'avait rappelé d'ailleurs la semaine dernière à propos de l'institution très précoce d'un culte de Rome par les Delphiens, cette année-là déjà. Athènes, qui avait assumé une fonction de médiateur dans le conflit romano-étolien, joua tout naturellement un rôle de premier plan dans la réorganisation de l'Amphictyonie au cours des années 180. Vous avez une carte avec les divers peuples qui en font partie. Je ne reviens pas sur les diverses missions accomplies à Rome par des ambassadeurs d'Athènes appartenant aux familles les plus distinguées de la cité. Bien qu'Athènes n'ait pas toujours appuyé les Delphiens dans leur prétention à retrouver au sortir de l'époque étolienne la haute main sur le sanctuaire d'Apollon, car en principe la gestion des biens et l'organisation des fêtes du dieu était du ressort intangible de l'Amphictyonie, non pas de la cité de Delphes. On peut dire qu'Athènes jouissait auprès des Delphiens d'un grand crédit qui devait aller en s'accroissant encore tout au long de ce second siècle. Sujet, je le rappelle, de la thèse delphique, toujours très solide, de l'épigraphiste Georges Dau en 1936, savant à qui l'on doit par ailleurs un instrument de travail non encore tout à fait remplacé aujourd'hui, sa chronologie delphique de 1943. Jusqu'à une date assez récente, l'épigraphie de Delphes était, peut-être plus encore que l'épigraphie attique, un domaine où il y avait quelques témérités à vouloir s'aventurer quand on ne faisait pas partie du cercle des modernes Delphiens, club assez fermé, dans lequel je n'ai personnellement jamais songé à entrer, même s'il m'a été donné, en plus d'une occasion, de contribuer à l'étude de quelques documents ou problèmes delphiques, cela grâce en particulier aux encouragements, voici un quart de siècle, du devin irréprochable delphien de race, qui était le très regretté Jean Bousquet, Mantin amo meton delphon genos, et ensuite cela continue, tadé l'œil cou, comme dit une épigramme d'Érythrée. Cette difficulté tenait en particulier au fait que les très nombreuses inscriptions découvertes à partir de 1892 dans les fouilles de l'école française d'Athènes avaient certes été réunies, pour un bon nombre d'entre elles, en deux grandes publications, mais concurrentes plutôt que complémentaires l'une de l'autre. D'un côté, les fouilles de Delphes, tome 3, où les textes étaient rangés, plusieurs fascicules, où les textes étaient rangés selon leur lieu de trouvaille, qui n'est pas toujours le critère le plus pertinent. De l'autre, la centaine de pages et de numéros, où dans la syllogée Inscriptionum Graecarum, 3e édition 1915, en pleine guerre franco-allemande, le Prussien Hans Rudolf Pomto avait repris et commenté en latin, dans un esprit assez polémique, les documents de Delphes les plus importants. Les choses commencèrent à changer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand ces querelles ont trouvé un apaisement et quand surtout a été entrepris à partir des années 1970 un nouveau corpus des inscriptions de Delphes qui comptera autant de fascicules qu'il y a de catégories de textes à distinguer. C'est ainsi que le dernier en date dû à François Lefebvre contient tous les actes émanant de l'amphictyonie soigneusement classés, commentés et traduits. On a vu combien un tel recueil est précieux pour qui veut faire un usage raisonnable des sources épigraphiques. L'auteur est du reste venu tout récemment présenter lui-même deux perles de ce corpus, la version ancienne, Dogma Archaion Amphictyonon, vers 278, et la version récente, aux alentours de 130, du décret amphictyonique accordant aux technites dionysiaques d'Athènes les privilèges dont ces artistes itinérants avaient grand besoin pour exercer leur métier. Tandis que de mon côté, j'attirais votre attention sur l'éloge d'Athènes, contenu dans un troisième document, en rapport d'ailleurs avec cette compagnie de gens de théâtre, en vous signalant aussi, chemin faisant, les parallèles qu'a fait connaître une inscription trop négligée jusqu'ici, quoique exactement contemporaine, l'arétalogie d'Isis à Maronée, qui fait une mention très spéciale d'Athènes comme centre culturel. Ce corpus delphique est certes assez loin encore de son achèvement. On attend avec une particulière impatience la parution du fascicule 5, annoncé depuis longtemps par notre camarade Dominique Muliez, qui a réuni plus de 1300 actes d'affranchissement et repris sur cette base l'examen de la chronologie delphique des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ. Guère moins importants seront les fascicules qui contiendront les nombreux décrets de proxénie votés par la cité de Delphes, sans parler de catalogues extrêmement précieux pour l'histoire de l'ensemble du monde grec, comme une longue liste précisément de proxènes de nationalités très diverses qui fut gravée sur le mur polygonal à partir de l'année 197-6. Ou la fameuse liste des théarodoques de Delphes, catalogue dressé selon un ordre géographique, fort instructif, de tous ceux qui, à l'étranger, avaient l'honneur et d'abord la charge de recevoir dans leur propre cité les théoroi, les ambassadeurs sacrés, envoyés pour l'annonce des pythia et des soteria de Delphes, chose qui se pratiquait toujours à l'époque où nous sommes parvenus. L'une et l'autre de ces listes font mention, d'ailleurs, de citoyens athéniens. En marge du corpus, on signera de très utiles monographies, comme la thèse de Denis Rousset sur le territoire de Delphes, qui a renouvelé les aspects topographiques de bien des documents, ainsi des arbitrages de frontières, auxquels des Athéniens, on va le voir, se trouvèrent associés. Enfin, on ne craindra pas de saluer à nouveau, comme un véritable événement, la parution toute récente, début 2013, du très substantiel choix d'inscription de Delphes, dû à trois Delphiens, entre guillemets, très expérimentés, œuvre qui, par ses index, permet de retrouver aisément la plupart des documents dont l'historien peut avoir besoin, au point que l'épigraphie de Delphes, de véritable coupe-gorge qu'elle était encore il y a quelques années, s'est transformée en plateia, une large avenue ombragée où même le débutant n'a plus le droit de s'égarer. Les documents que nous allons examiner aujourd'hui n'ont pas tous un rapport direct avec cette amphictyonie pileo-delphique où deux fois l'an, au printemps et à la fin de l'été, d'abord à Antella, près des Thermopyles, puis à Delphes même, siégeaient les hiéromnémons, ces 24 représentants des 12 peuples ethnés associés pour la gestion des deux sanctuaires. celui de Déméter et celui d'Apollon. Mais la situation très particulière d'Athènes dans cette association faisait que les Delphiens, qui y siégeaient de droit depuis longtemps, sinon depuis toujours, avec deux représentants, rencontraient chaque année une délégation athénienne. Athènes était en effet la seule cité, avec Delphes précisément, à disposer d'un siège, ou si l'on préfère, d'un suffrage permanent à l'Amphictyonie, n'ayant pas à le partager par roulement avec d'autres cités au sein de l'ethnos auquel elle appartenait, car toujours elle avait la pleine disposition d'une des deux voies ioniennes, alors que l'autre était attribuée, selon des usages plus ou moins bien établis, à l'une des cités de l'île d'Eubée, comme cela se passait également chez les autres peuples. Nécessairement donc, Delphiens et Athéniens étaient en contact étroit et le resserrement de ces relations est un phénomène aisément observable au IIe siècle avant notre ère. Si encore une fois, on fait abstraction des épisodes liés à la réforme de l'Amphictyonie vers le milieu des années 180, sujet déjà traité dans le cours de 2012, le premier document qui doit nous intéresser est un décret de proxénie, décret honorifique, voté par les Delphiens pour l'Athénien Apollodoros, il est dans votre dossier. Gravé, comme tant d'autres d'actes relatifs à Athènes, sur les assises de marbre de l'édifice dit « Trésor des Athéniens », « Thésauros », ou comme l'appelle cette inscription même « Oikos o Athénaion », ce document fut publié par le très actif et compétent Gaston Collin au début du XXe siècle, mais c'est Pompto qui parvint à en cerner plus précisément la date, en dépit de l'absence de toute référence à un archonte éponyme. Il le rapprocha en effet d'une autre inscription, un décret pour des arbitres rhodiens, où les mérites des personnages honorés étaient évoqués en termes très semblables, mais avec quelques précisions supplémentaires bienvenues. Dans les décrets pour l'Athénien, il est dit, vous le voyez seulement, si l'on peut dire, mais ce n'est pas pour autant banal, qu'étant venu à l'appel des Delphiens, qu'il avait mandé par l'intermédiaire des envoyés de la cité, Paracletes, Apoton apestal menon upotas polios, on notera au passage l'usage subtil des prépositions, apo, upo, il s'était dévoué donc sans compter pour permettre à la cité de l'emporter dans l'action judiciaire portant sur les domaines sacrés et sur le territoire disputé. Entoi agonixastai, te polei, tan crisin, tan periton, temeneon, ke kaitas amphilogu kouras. Or, ces derniers mots se retrouvent, quoique mutilés, dans le décret pour les Rhodiens, qui précise que la propriété de ces terres était revendiquée par les gens d'Amphissa, la grande rivale des Delphiens en Locride voisine, sur leur frontière occidentale. On verra une carte tout à l'heure. Rappelons que cette ville, dernier bastion de la résistance étolienne, avait subi 10 ans plus tôt, de la part des Romains, un siège mémorable. Or, le décret pour les Rhodiens, qui est ici, repris maintenant dans le choix d'inscriptions de Delphes, est solidement accroché à la chronologie delphique par la mention qui est faite sur la base d'une restitution tout à fait assurée de l'archonte Mantias, datable de l'année 180 ou 179. C'est donc certainement à propos du même conflit territorial avec Amphissa que l'Athénien, à titre individuel, avait été sollicité par Delphes. Mais quel fut son rôle exact? Dans sa thèse, Denis Rousset a fait de justes réserves sur la présentation un peu trop succincte, jusqu'à en devenir inexacte, que Christian Habicht a donné de cet épisode judiciaire dans Athènes hellénistiques. Selon cet historien, qui ne faisait cependant qu'émettre une hypothèse parmi d'autres, l'Athénien Apollodoros serait intervenu en seconde instance, après que le cadre général de l'accord entre les deux cités eût été fixé par les arbitres rhodiens. Mais du décret voté en son honneur, il ressort qu'il fut en réalité une sorte d'avocat, synagonistes, se rangeant clairement du côté des Delphiens. On a vu la phrase en question, « Ento syn agonixastai te polei », c'est assez clair. Alors, fournissant donc aux Delphiens peut-être des éléments utiles à faire pencher la balance en leur faveur. Ces terres ne faisaient certes point partie de ce que les sources littéraires et divers documents appellent la terre sacrée, Hiera Kora, dans l'ovale qui est dessiné là, celle qui appartenait à Apollon et se trouvait d'ailleurs dans un espace différent de celui des frontières avec Amphissa. Il ressort du travail de Denis Rousset, qui a traité à fond de ces questions délicates, que la Kora Amphilogos de nos deux décrets, le territoire contesté, avec les domaines sacrés, les téménés, dont il est question dans les deux documents, était quelque chose de différent, de plus circonscrit, mais pas moins disputé, en relation peut-être avec les mesures d'expropriation prises par le consul Acilius Glabrio, vainqueur justement des Étoliens 10 ans plus tôt. L'affaire était certainement très embrouillée. Il fallut faire appel donc à des experts qui étaient sans doute, tels qu'était sans doute notre Athénien, pour essayer de dénouer les chevaux. Son mandat ne doit donc pas être mis sur le même plan que l'arbitrage proprement dit, confié de façon, il est vrai, un peu unilatéral, aux Rhodiens. On voit ici que les Delphiens, sur deux plans à distinguer, s'en remettent aux ressortissants de cités jouissant alors d'un très grand prestige international et d'abord de la confiance des Romains, ce qui, il est vrai, dans le cas des Rhodiens, ne devait pas durer très longtemps. Cela dit, ni l'un ni l'autre des deux décrets ne prouve que l'affaire ait été réglée à satisfaction des deux parties au moment où ils furent votés par les autorités de Delphes. On prévoit en effet de faire escorter aussi bien l'Athénien que les neuf Rhodiens dans leur voyage de retour, Anacomida, Peritas Anacomidas, ce qui donne à penser qu'une menace pouvait peser sur eux dès qu'ils auraient franchi la frontière. Il se pourrait au surplus que l'Athénien n'ait été honoré que plusieurs années après les Rhodiens, puisqu'à la différence de ceux-ci, il ne figure pas dans la grande liste des proxènes, laquelle, en fait, a cessé d'être mise à jour à partir de 176. Ce serait un éventuel indice de date plus tardive pour le décret qui le concerne. Mais les Delphiens ont pu estimer aussi, car les Grecs ne sont pas toujours très formalistes, que son inscription dans la liste était superflue, puisqu'il s'était vu honoré individuellement par un décret gravé et exposé, bien en vue, chose qui commençait à devenir plus rare. Quelques décennies plus tard, vers 140, on va voir dans un instant sur quoi repose cette datation, c'est au peuple d'Athènes, non pas à celui de Rhodes ou d'un autre Étien, que fut confié le soin de constituer un tribunal arbitral, un dicasterion, pour délimiter tout un secteur des frontières de Delphes avec ses voisines phocidiennes. Le dossier, ici encore, avait été gravé sur des blocs du trésor des Athéniens, ce qui, à lui seul, suffirait à prouver qu'Athènes était d'une façon ou d'une autre impliquée dans cette affaire. Je crois que vous avez ce texte aussi dans le dossier. Le fragment le plus important ne fait certes aucune mention des arbitres et de leur nationalité. Il s'agit d'une description minutieuse du tracé de la frontière, comme on en connaît un certain nombre dans le monde grec, qui font ces documents, qui font la joie, parfois aussi le désespoir, des épigraphistes ayant du goût pour la géographie historique et la micro-topographie, puisque ces documents peuvent, dans le meilleur des cas, conserver le souvenir de réalités physiques aujourd'hui encore identifiables sur le terrain. C'est le cas d'une partie au moins de cette délimitation qui dessine ou redessine la frontière entre Delphes d'une part et les deux petites cités phocidiennes de Phlygonion et d'Ambrissos d'autre part. La première étant désormais identifiable à un site proche du bourg d'Arakova, bien connu des voyageurs allant d'Athènes à Delphes, la seconde ne faisant qu'un avec l'actuel village de Distomo, ici une photographie. On a affaire ici à un cas assez clair de sumpolitéia, d'union politique, comme il en existait plusieurs en Phocide. Ces poleis, donc Ambrissos et Phlygonion, n'avaient plus de réelles frontières entre elles, mais elles défendaient jalousement celles qu'elles conservaient vis-à-vis d'une cité plus prospère, comme celle de Delphes. On est là, comme le montre cette carte que j'emprunte à l'ouvrage de Rousset, sur les flancs méridionaux du Parnasse. L'arbitrage laisse voir qu'à partir d'une certaine altitude, on ne se souciait plus guère de tracer une frontière précise. La montagne, la haute montagne, domaine du dieu Pan et des nymphes, ces nymphes adorées d'ailleurs, on le sait bien, sur les hauts plateaux du Parnasse, dans l'antre corycien naguère exploré par l'école française, appartenait d'une certaine façon aux deux parties en présence, sans qu'il fût même besoin de le spécifier. En revanche, les arbitres avaient jugé bon de préciser in fine que l'eau coulant près du lieu dit Aigoneia, certainement fréquenté par des troupeaux de chèvres, Aiges, des deux collectivités, serait commun, cette eau plutôt, serait commune à tous, to udor koinon panton. Et il réservait le cas, on le voit donc toujours dans ce même document, il réserva également le cas des sanctuaires qui pourraient se trouver le long de cette frontière. Leur statut devait rester semblable à ce qu'il était avant la délimitation. La participation de juges athéniens à cet arbitrage entre Delphes et ses voisines est confirmée par deux fragments. L'un rédigé en dialecte, ou disons mieux peut-être dans la langue commune à toute cette aire géographique, dite Koina du Nord-Ouest, conserve le début du décret par lequel les Delphiens faisaient état de la mission accomplie à Athènes par leurs ambassadeurs qui avaient obtenu des Athéniens l'envoi d'un tribunal, sans doute assez nombreux, en vue de régler ce litige de frontières, les oi apostalentes presbyteiae, poti athenaius, aitesastai, dicasterion, epitan crisin. On retrouve donc ce terme de crisis, décision, jugement, dans le décret antérieur pour l'Athénien Apollodoros. Il est vrai que l'appartenance de ce fragment à notre dossier n'est pas entièrement assurée. L'autre fragment, rédigé lui en koiné, langue commune générale, contient notamment, vous voyez que c'est quelques restes, contient notamment les restes d'un décret voté par les Athéniens eux-mêmes. Il en est fallu de peu qu'il nous donne le nom de l'archonte athénien, Archontos en Athénaïs, ce qui eût réglé sans doute d'un seul coup la question de la chronologie. À défaut, il reste la mention très importante d'un proconsul, Antupatou, et apparemment d'un autre magistrat romain prénommé Leucios, ten Leucu, peut-être épistolène, sa lettre. Il est très tentant de penser que ce proconsul n'était autre que le gouverneur de Macédoine. Aussi faut-il probablement restituer stratégou Antupatou. Ce titre est le plus communément employé pour désigner à cette époque un gouverneur de province, comme l'avait bien marqué Maurice Solo dans son étude de 1918, c'est un classique, sur la traduction en grec du titre consulaire. On a vu la semaine dernière que cette province de Macédoine, créée en 148, s'étendait sur une grande partie de la péninsule balkanique. Certes, la région du Parnasse n'en faisait pas formellement partie, mais le proconsul qui dirigeait cette province avait un œil sur l'Hellade. Il intervenait en particulier dans les affaires des peuples qui s'étaient soulevés aux côtés des Achéens, peu d'années avant. Il n'est pas sûr toutefois que ce soit lui qui ait eu l'initiative de désigner Athènes comme arbitre. Les Delphiens eux-mêmes pourraient lui avoir soufflé, suggéré ce choix. L'inscription prouve à tout le moins que ce magistrat eut à donner son approbation. Il a un droit de regard. Cette mention du gouverneur romain constitue également, bien entendu, un indice chronologique qui, combiné avec le critère paléographique, autorise à mettre l'inscription peu après, justement, le tournant de 146. Les Athéniens sont alors dans les meilleurs termes avec les autorités romaines, puisque le Sénat vient de reconnaître leur souveraineté sur les îles de l'Égée septentrionale, un instant menacée par le soulèvement du pseudo-Philippe et par la création de la province de Macédoine elle-même. Si du moins j'ai eu raison d'interpréter dans ce sens le décret de la communauté athénienne de Myrina à Lemnos, datable, on l'a vu, on le verra encore, de l'an 145 seulement. Dans cette espèce de musée épigraphique qu'est le trésor des Athéniens, se trouvent plusieurs autres documents qui ont trait aux relations entre Athènes et Delphes vers la fin du second siècle. Je laisse de côté ici, pour en traiter tout à l'heure en séance de séminaire, le dossier relatif à l'arbitrage par les autorités romaines, cette fois, du vieux litige existant entre les technites dionysiaques d'Athènes et ceux dont le siège, après d'avoir été à Corinthe, désormais rayé de la carte, étaient notamment à Argos et à Thèbes. Parmi les documents émanant de l'Amphictyonie, et non plus donc de la cité de Delphes comme les deux précédents, je réserve pour une autre séance de séminaire le réexamen d'une inscription qui a fait couler beaucoup d'encre chez les spécialistes de l'histoire financière et monétaire. Le décret par lequel les Amphictyons venus à Delphes, oi Amphictyones, oi Eltontes eis Delphus, décident vers 110 avant Jésus-Christ que tous les Grecs, pantas tous Hellenas, accepteront désormais d'échanger, littéralement de recevoir, dekestai, le tétradrachme attique, to attikon tétrachmon, pour la valeur de 4 drachmes d'argent, en drachmais arguriou tétarchi. C'est un jeune chercheur de l'université de Louvain, M. Charles Doyen, qui, lors de la séance du 17 mai prochain, aura le soin de commenter cette bien extraordinaire mesure en nous faisant profiter de sa connaissance très fine de la métrologie gréco-romaine et des numéraires en circulation à cette époque. Il me paraît important de relever dès à présent que le décret des Amphictyons ne fait pas mention explicite de la cité d'Athènes, dont on ignore du reste quel rôle elle put jouer dans cette décision qui certes la concernait au premier chef, en tant qu'émettrice de la monnaie de référence, il fut décidé de faire graver l'acte à Delphes, Delphois, sur le trésor des Athéniens, Epiton Athénaion Thésauron. Mais la suite du texte, bien que donnée sûrement établie par tous les éditeurs, sauf pour ce qui est du complément en acropolei, effectivement assez arbitraire, me paraît dans l'ensemble sujette à caution, car les mots en to hieroi tout et où n'ont guère de sens, placés ainsi après la mention du Thésauros. Rien n'assure une exposition du décret à Athènes, et encore moins sur l'acropole. Cette restitution ne s'appuie en effet que sur le grand décret amphictyonique pour les technites d'Athènes, dont il était normal qu'un exemplaire fût exposé à Athènes et sur l'acropole même, puisque ce texte non seulement se rapporte directement à la cité des technites, mais qu'il en fait, on s'en souvient, un éloge dithyrambique. Ici, la situation est bien différente. Le décret s'adresse à toutes les cités. Athènes, encore une fois, n'y est pas même mentionnée. À l'instar de tous ses collègues du conseil amphictyonique, le hiéromnémon athénien aura à apporter copie du décret dans sa patrie. Tout des dogmatos, to antigraphon, et diakomissai, et caston ton hieromnémonon, eisten patrida. Si les Athéniens jugent bon de faire graver ce dogma amphictyonikon, ce sera à leurs autorités, pas à celle de l'amphictyonie, de décider de le faire et de son emplacement. Il n'en est pas moins certain que notre décret prescrivait une double exposition, à Delphes, en Delphois, et en un autre lieu. Dès lors, il me semble clair que c'était à Antela, au Pilai, dans le second sanctuaire de l'amphictyonie pilaeodelphique, sur les murs du temple de Déméter ou ailleurs, non retrouvé. À Delphes, le bel édifice de marbre construit au 5e siècle avant Jésus-Christ par les Athéniens, vainqueurs des Perses, était devenu, à la basse époque hellénistique, une espèce d'épiphanestatos topos, de lieu d'exposition tout à fait privilégié, car, outre qu'il était admirablement situé en bordure de la voie sacrée, il offrait aux ciseaux des lapicides des surfaces lisses d'un excellent marbre. Ce n'est donc pas par hasard si l'on a fait graver sur ce matériau de choix, et là seulement, des hymnes à Apollon avec notation musicale, notamment ceux de l'année 128 avant Jésus-Christ, composés par deux artistes dont le nom est conservé, Athénaios, fils d'Athénaios, et Liménios, fils de Toinos. L'un et l'autre, membres justement de l'association des technites d'Athènes. Pour ces deux œuvres et d'autres semblables, il convient de se reporter à l'édition fondamentale qu'en a donnée l'helléniste et musicologue Annie Bellis dans le tome 3 du corpus des inscriptions de Delphes. Mais on en trouve maintenant, il faut aussi le noter, un bon aperçu sous le numéro 203 du choix tout récemment paru, avec deux partitions musicales, vous en avez une ici, dont les différences sont bien expliquées. La chose est suffisamment rare dans un recueil d'épigraphie grecque pour mériter d'être signalée. On verra dans un instant à quelle occasion ces hymnes furent composés et exécutés. Le trésor des Athéniens n'est cependant pas le seul et unique édifice du sanctuaire à avoir servi de support à la gravure d'inscriptions en cette seconde moitié du IIe siècle. Une époque où les stèles indépendantes, effectivement, se font plus rares, là comme ailleurs. Sans même parler du grand mur polygonal, où à côté d'un certain nombre de documents publics, la liste des proxènes que je citais tout à l'heure, se pressent les actes d'affranchissement. On a pu choisir, pour telle raison qui nous échappe, un autre lieu d'exposition, même lorsqu'il s'agit d'une affaire dans laquelle Athènes est impliquée. C'est ainsi que se trouve gravé sur le socle du pilier du consul polémique, à l'angle donc sud-est du temple lui-même, ce pilier qui réutilisait d'ailleurs un monument élevé par le roi Persée de Macédoine. On a gravé là, disais-je, le dossier relatif à la querelle locrienne. Cette affaire, dont l'instruction fut confiée à un critérion, à un jury athénien d'au moins 200, peut-être 300, comme on le dit ici, triakosion kai enos, membres, ainsi qu'il résulte de ce fragment du dossier, conflit qui n'était pas une banale querelle de frontières, mais portait sur les règles à respecter pour la désignation des deux représentants, de l'un des 12 peuples qui composaient l'Amphictyonie, ou mieux, du représentant, car en l'occurrence, seul l'un des deux hiéromnémons faisait problème. Il vaut sans doute la peine d'en dire quelques mots, non seulement parce que c'est un témoignage supplémentaire de la présence athénienne à Delphes en cette seconde moitié du IIe siècle, mais aussi parce que la chose est révélatrice des préoccupations politiques qui agitaient le petit monde des cités grecques en cette époque, ou à la faveur de la paix relative que Rome imposa en 146, on pouvait déployer énergie et talent à faire valoir des droits qui étaient consubstantiels à l'identité de chacune des poleis, petites ou grandes. Des querelles toutes semblables, en effet, ont surgi alors au sein d'autres peuples amphictyoniques. Le hasard nous a ainsi conservé les vestiges d'un dossier eubéen qui ne fut pas moins complexe et qui a suscité l'intérêt de plusieurs historiens dont je me trouve être un peu par la force des choses. Mais je n'en dirai rien ici, me concentrant sur le cas des Locriens, puisque la cité d'Athènes fut sollicitée, au moins à deux reprises, de contribuer au règlement de cette épineuse affaire. Le peuple des Locriens se subdivisait depuis longtemps en deux sous-unités tout à fait distinctes. Les Locriens dits Ozol à l'ouest, Hesperioi, à l'ouest de Delphes, non ? Et les Locriens de l'Est, séparés de leurs frères occidentaux par toute la largeur de la Phocide. Ce sont ces derniers qui se disputèrent au sujet de la Psephos, de la voie amphictyonique dont ils disposaient collectivement. Mais comment expliquer que la querelle n'ait opposé que deux des cités de cette Locride orientale, à savoir Tronion et Scarphée, et que le désaccord est porté seulement au témoignage explicite du procès-verbal des juges sur la troisième part, to triton meros, de ce que le dossier appelle la hieromnamosuna, la représentation au conseil des hieromnémons. Les deux choses sont évidemment liées, même si les commentateurs omettent trop souvent de le dire. En effet, l'enjeu du débat est la façon dont sera désignée une année sur trois, c'est du moins ainsi que je comprends les choses, le représentant des Locriens épicnamidiens, ceux qui sont dans le grand ovale, près du mont Cnémis, c'est-à-dire de la région située donc, non loin des Thermopyles, porte de la Grèce qui marquait la limite septentrionale de la Locride. Cela implique qu'à intervalles réguliers, ce seront les Locriens dits hypocnémidiens autour de la ville d'Oponte, Opus, à Talandi, qui obtiendront l'honneur de présenter à l'Amphictyonie le peuple des Locriens de l'Est. Or, comme la cité d'Oponte était indiscutablement la métropole de tous ces Locriens, elle devait avoir le privilège, à cette époque tout au moins, de désigner le hiéromnémon qui serait en place l'année des Pythias de Delphes. Autrement dit, tous les quatre ans. Tous les quatre ans. Ne restait donc pour les épicnémidiens que les trois autres années du cycle quadriennal. La position défendue par les gens de Tronion était la suivante. Ils avaient acquis un droit à la hieromnamosuna une fois sur trois, cela en fonction d'une espèce de clé de répartition, puisque, disaient-ils, ils assumaient également le tiers de la fourniture du petit bétail pour le sacrifice commun des Locriens. Mais les gens de Scarpheia ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils estimaient que, selon l'usage ancien, la désignation devait se faire à chaque fois entre tous les épicnémidiens, sans privilège octroyé aux gens de Tronion, une année sur trois. Le procès-verbal des juges, document très original, qui nous est parvenu presque complet, mis à part une amputation assez bénigne dans l'angle supérieur gauche du bloc, nous fait assister à une espèce de joute, document que vous avez ainsi dans votre dossier, entre les deux villes qui, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs respectifs, s'interpellent avec beaucoup de vivacité. Tronion s'exprime même à la première personne du singulier. Il me revient le tiers de la représentation amphictyonique. Et après avoir développé ses arguments, elle conclut. Il faut que je reste seule maîtresse de la part qui me revient. Kaidei kratein, eme, kai kurioyein, tu emin, epi balontos, mereos. Et de fustiger alors son adversaire. Toi, ô cité de Scarphée, tu m'opposes des allégations artificieuses et malfaisantes. Tu de poli Scarphéon, antipoieisai, kat. Cacopragmonos, catasophizomena. Les représentants de Scarphée paraissent avoir fait preuve de plus de retenue et d'un peu moins de rhétorique. Contre les prétentions de Tronion à monopoliser to triton meros, la troisième part, la troisième année, il faut valoir non seulement l'usage ancestral, ta patria, mais surtout de précédents jugements en faveur de leur ville, pris aussi bien du côté des amphictyons, para tous, que aussi des Athéniens, para tois athénaios, en prétendant même se conformer à la volonté écrite des Romains, akolutos toi uporomaion keimenoi graptoi, sans préciser toutefois de quelle autorité précisément il s'agit. Or, le document conservé nous apprend que les juges se prononcèrent presque à l'unanimité par 59 suffrages sur 61 en faveur de Tronion. Preuve que cette ville devait pouvoir s'appuyer sur une tradition assez largement reconnue. On notera au surplus que si les prétentions de Tronion avaient été sans fondement, sa voisine et rivale Scarpheia, qui devait à terme l'emporter sur le plan économique, aurait vraisemblablement était soutenue par d'autres cités épicnémidiennes, puisque toutes, même les plus chétives, pouvaient participer de droit à la désignation de l'hieromnémon, comme cela a été confirmé il y a peu, d'une manière bien inattendue, par la désormais fameuse lettre d'Adrien aux gens de Narica, inscription sur bronze, grande plaque, parvenue au Louvre. J'ignore si le nouveau président, directeur général du Grand Musée parisien, quoique archéologue et athénien lui-même, songera jamais à exposer ce document au pédigré un peu incertain, même si son authenticité n'est absolument pas douteuse. Car de cette lettre, il ressort qu'au IIe siècle de notre ère encore, la cité de Narica, toute proche justement de Tronion, voyait dans le fait de participer à l'amphictyonie, comme aussi au panhellénion fondé par Adrien, l'une des preuves de son statut d'autonomie au sein de la communauté locrienne. Elle était du reste la patrie d'Ajax, le héros par excellence de tous les locriens jusque dans la lointaine Italie. Signalons ce propos que les inscriptions de la Locride orientale, y compris ce document que j'ai eu l'honneur d'éditer en 2006 avec mon camarade du Louvre Alain Pasquier, sont maintenant réunies dans un fascicule des inscriptiones graecae, tome 9, fascicule 5, paru en 2011, dû à Madame Daniela Souma, où l'on trouvera du reste aussi un résumé rédigé en latin de la querelle locrienne. Avant d'en venir au dossier de la Pitaïde pour conclure cette leçon, je voudrais, comme annoncé dans mon programme, faire un bref détour par une ville de Phocide, peu éloignée de Delphes, à savoir Styris, qui était située à l'emplacement, ou peu s'en faut, du célèbre monastère d'Osios Lucas. C'est d'ailleurs lors de la réfection de cet édifice byzantin en 1957 que fut repéré un bloc inscrit qui avait échappé jusque-là à l'attention et qui se révéla être le reste d'un décret athénien. Publié en 1971 par l'Américain Eugene Vanderpool, excellent connaisseur de l'Attique et plus généralement de la Grèce centrale, ce décret, donc cette pierre, était très, certes très incomplet, mais il témoignait de relations diplomatiques nouées au IIe siècle avant Jésus-Christ entre cette petite cité de Phocide et la grande cité d'Athènes, qui décidait, donc Athènes, de décerner l'éloge aux trois ambassadeurs venus de la part des Styriens, de leur octroyer une couronne pour la façon dont ils s'étaient comportés durant leur séjour à Athènes, conduite belle et digne des deux cités, epito pepoiestai, tente epidemian, kaiten allen anastrophen, euskemona, kai axian, ekateron, ton poleon. Mais le plus notable se trouve à la dernière ligne, où il est stipulé qu'un Athénien, en particulier un citoyen du dème de Ramnonte, aura à convier ses ambassadeurs à la cérémonie d'accueil, dite xenia pour les étrangers, et cela dans le cadre de ses fonctions, ayant été élu à main levée pour l'accueil des amis et des alliés, ton kekeirotonomenon, epi tenapodoken, ton philon kai summakon. À la suite du premier éditeur, Christian Habicht a noté dans Athènes hellénistiques que ce titre était une nouveauté au point de vue des institutions athéniennes. Un tel préposé à l'apodoké non seulement est absent du tableau des magistratures données par l'Athénaïon Politeia aristotélicienne pour le milieu du IVe siècle, mais il ne figure dans aucune inscription attique, y compris celle du IIe siècle, pourtant assez nombreuses, tant avant qu'après 167. Ce qui montre une fois de plus que notre information reste incomplète, même pour la mieux connue des cités grecques. Dans un article écrit précisément en hommage à ce savant, à Habicht, dans ce recueil, notre jeune collègue de Montpellier, Éric Perrin-Saminadaillard, a repris l'étude de ce décret qu'il doit insérer dans le fascicule 6 en préparation du nouveau corpus de l'Attique. Il ne fait pas de doute, en effet, que ce document est postérieur à 167. L'écriture suffirait sans doute à l'indiquer si le titre même que porte Héracon de Ramnonte, lequel est d'ailleurs impossible à identifier en toute certitude en l'absence d'un patronyme, n'était pas révélateur d'un état assez avancé des relations ou de son l'évolution de ses rapports entre Athènes et Rome. La notion d'apodoké, d'accueil solennel, est certes ancienne dans le vocabulaire politique, Et j'en relevais naguère un exemple en partie méconnu dans un décret de Samoche aux alentours de 320. Mais l'élément nouveau, c'est la formule oi philoi kai summakoi. Elle est clairement un calque du latin amici et socii. Éric Perrin a donc parfaitement raison de mettre la création d'un poste de préposé à la réception officielle des amis et alliés en relation avec l'intensification, là je remonte l'inscription, des relations d'Athènes avec les Romains après le tournant de 167. Démonstrative à cet égard est la formule. Il a donné une liste d'ailleurs tout à fait convaincante des décrets attiques où apparaît la formule liée au sacrifice public. Donc après 167, où il est sacrifice pour la santé et le salut du conseiller du peuple et des enfants et des femmes, paidon kai gunaikon, toujours dans cet ordre, les enfants étant les citoyens de demain, tandis que les femmes ne sont vues en cette époque lointaine que comme le seul moyen à disposition pour avoir une progéniture, et enfin le salut, la santé des amis et des alliés, kai ton philon, kai summakon. La plus ancienne de ces inscriptions date en effet de 164 ou 165-4. Les Athéniens de la ville auraient, il est vrai, été devancés de peu par les Athéniens des champs, si on peut dire les choses ainsi, puisque vers 166 déjà, selon M. Perrin, la forme apparaît dans un décret, dit-il, des clérouques de Lemnos, celui que vous avez sous les yeux, que l'on connaît. Mais précisément, on a vu dans la leçon précédente que la date traditionnelle de ce décret des Athéniens de Myrina devait être écartée au profit d'une datation sensiblement plus basse, vers 145 seulement. Ceux-ci n'ont donc fait, les colons n'ont donc fait que imiter l'usage né à Athènes même. La date de la création d'une magistrature spéciale pour présider à l'accueil des ambassadeurs venus des États amis et alliés dépendra, elle, de celle qu'il convient d'attribuer au décret de Styris, au décret trouvé plutôt à Styris, puisque c'était bien un décret d'Athènes. Notre collègue est visiblement tenté de le mettre aussitôt après 146. Il s'agit, écrit-il, des lendemains de la guerre achéenne, au cours de laquelle nombre de petites cités, parmi lesquelles il faut ranger les cités phocidiennes, eurent le malheur de faire le mauvais choix. Fin de la citation. Cela est vrai, mais il est permis de douter que les Athéniens se soient empressés, au risque d'indisposer le Sénat romain ou le gouverneur de Macédoine, de nouer des alliances avec les États vaincus. Nécessairement, me semble-t-il, un certain laps de temps dut s'écouler avant qu'Athènes ne pût songer à cela, qu'il s'agisse de la Phocide ou de la Béotie voisine. Pour ce qui est de ce pays, justement, on a un indice, peut-être ténu, d'une reprise des relations vers 140. En 139, en effet, les Athéniens honorent Télésias de Trézène, en Argolide, une famille qui était dévouée à celle d'Athènes depuis les alentours de 300 au moins. Or, en faisant graver à ses frais cette stèle, où il se trouve d'ailleurs un relief avec la représentation de Thésée, qui était un héros à la fois athénien et trézénien, le personnage a tenu à indiquer qu'il avait précédemment été honoré non seulement à Athènes, mais aussi à Thèbes, en tant qu'architéoros, donc comme chef d'ambassade sacré, lors du concours des Héracléa, comme aussi aux Agrionia, célébrés dans cette même ville pour Dionysos. La restitution orchoméniaune est certainement fautive. Aussi aux Muséia de Thespie. Donc si Télésias a pu ainsi exhiber aux yeux des Athéniens ses liens avec deux cités béotiennes qui avaient été les adversaires des Romains en 146, c'est vraisemblablement qu'Athènes aussi, on avait le sentiment, 6 ou 7 ans plus tard, que la page était tournée. Mais la datation vers 140 également du décret trouvé en Phocide peut s'appuyer sur une base plus solide. La question est d'ailleurs liée à celle de savoir pourquoi Athènes attachait tant d'importance à établir ainsi une alliance avec une alliance en bonne et due forme avec une cité telle que Styris. Le désir d'actualiser une parenté légendaire peut avoir joué, mais à mes yeux, un rôle tout de même mineur. En effet, M. Perrin a légué avec raison une tradition qui faisait des gens de Styris, des colons athéniens. Et à ce témoignage, il a pensé pouvoir associer le fait que le sanctuaire de Déméter à Styris abritait une statue de culte à Galma faite d'un marbre pentélique, selon Pausanias. Mais il y a un peu d'excès, je pense, à chercher une origine ou une influence athénienne derrière cette effigie de Déméter. De toute façon, la vraie raison du rapprochement entre Athènes et Styris réside ailleurs que dans la Sungeneia. Comme l'a deviné Éric Perrin, le mobile essentiel, c'est le souci d'assurer la sécurité de la route menant, de la route menant d'Athènes à Delphes. Car Styris occupait une position clé à cet égard. Son territoire, en effet, avait une extension plus considérable que l'on penserait de prime abord, puisqu'il englobait en fait celui de la petite ville côtière de Médéon, suite à une intégration politique que l'on connaît à travers un assez fameux traité de Sumpolitéia. Beaucoup plus récemment a été publiée une délimitation de frontières qui atteste un contact direct de Styris avec la première des cités de Phocide pour le voyageur qui, depuis la Béotie, pénètre dans la vallée du Céphise, Phanoteuse ou Panopeuse, Panopée. Il s'agirait, selon les éditeurs, dont l'excellent connaisseur de la Phocide qu'est Denis Rousset, d'une délimitation entre ces deux cités. Mais dès 1997, j'ai émis de mon côté l'hypothèse fondée sur la remarquable expression Phanoteios Stereios, sans aucune copule, que les deux cités en question étaient en réalité unies, elles aussi en Sumpolitéia. Dès lors, Styris aurait commandé non seulement la route qui vient de la mer, depuis Médéon, mais aussi la principale voie de pénétration en Phocide depuis l'Est. Quoi qu'il en soit de cette question de géographie historique qui sera encore débattue, on voit quelles sortes de préoccupations pouvaient avoir les Athéniens vers 140-130 en nouant ou en renouvant de bonnes relations avec les gens de Styris. On ne peut manquer, je finis par ces mots, en tout cas, d'être frappé par une coïncidence chronologique remarquable. C'est que s'ouvre en 138-7 la série des quatre Pitaïdes qui sont connues pour cette seconde moitié du IIe siècle et le début du siècle suivant. Les spécialistes le savent bien, depuis la thèse de Georges Dau, ce qu'il faut entendre par ce terme de Pitaïde, mais il est utile de le rappeler rapidement aux profanes. Pardon, je reviens à ça. C'est une spécificité athénienne qui consiste dans l'envoi d'une procession solennelle auprès d'Apollon Putios, donc à Delphes, mais qui n'a pas de rapport avec la célébration des Pythia, fête et concours, tous les quatre ans. Cette cérémonie n'obéit du reste à aucune périodicité liée qu'elle est à un phénomène céleste qu'il s'agit d'interpréter. Je passe sur les détails. Elle est certainement assez ancienne, puisqu'elle se trouve attestée dès le IVe siècle par plusieurs témoignages convergents. Mais elle disparaît complètement au IIIe siècle et pendant toute la première moitié du IIe siècle. On pourrait imputer ce silence à l'état de nos sources, mais Georges Dau a bien montré que cette hypothèse, en elle-même raisonnable, est formellement démentie par le fait que si une Pitaïde avait existé, disons, vers 180-160, on devrait nécessairement en conserver des vestiges sur les murs trésor des Athéniens, l'édifice qui, justement, dès la fin du IIIe siècle avant, commença à servir de support épigraphique qui, de fait, fut utilisé alors pour graver des actes relatifs à une Pitaïde régionale de l'Attique, celle dite de la tétrapole. Autrement dit, les divers catalogues qui sur le mur sud du trésor se rapportent à la Pitaïde athénienne marquent bien un commencement, ou plutôt, disons, un rétablissement d'un rite grandiose interrompu depuis deux siècles pour raisons politiques assez aisées à imaginer. Or, la procession de ces dizaines de magistrats, de prêtres, puis d'éphèbes, de technites, à partir justement de l'année 128, la deuxième Pitaïde, exigeait que la sécurité de la route d'Athènes à Delphes fût garantie. Voilà pourquoi, en 140 ou 139, un ou deux ans avant l'organisation de la première Pitaïde, les Athéniens firent un si bon accueil aux ambassadeurs de Styrie, leur réservant la même apodoké qu'aux envoyés des Romains. C'est que ces presbytai avaient donné au conseil et au peuple l'assurance que la Pitaïde à venir bénéficierait de toute leur sollicitude lors de sa traversée de la Styritide. Et les Athéniens furent certainement très satisfaits de cette première expérience, puisque 10 ans plus tard, en 138-7, ils accrurent considérablement l'effectif de la procession, plusieurs centaines de personnes dont les titres et les noms couvrent une vingtaine de blocs, c'est le dessin d'en bas, de la face sud du trésor des Athéniens. Et c'est en souvenir de cette grandiose Pitaïde de l'an 128 qu'ils firent graver, là aussi, les deux hymnes d'Apollon, vous avez vu, avec leur partition, qui sont de véritables incunables dans l'histoire de la musique grecque. Je vous remercie.